Composter, valoriser, réparer, créer, ne pas gaspiller, zéro déchet.
La fête de la récup, c'est sur Studio ZEF.
Et oui, c'est l'heure de pointe à la salle du jeu de paume. Là, il y a encore du monde qui arrive. Donc voilà, nous sommes en direct sur le 91.1 sur Studio ZEF. Et en même temps, on est voilà, au milieu de la foule, ou presque, qui viennent assister à cette deuxième édition de la fête de la récup. Et donc là, en plateau, on va aborder une nouvelle thématique autour de cette idée de récup, qui est, voilà, depuis le début de la journée, on a quand même beaucoup parlé de réparation, de réemploi, mais il y a des domaines où, des fois, c'est impossible de réparer. Voilà, c'est le cas avec l'alimentation. Et la question du gaspillage alimentaire, c'est un sujet essentiel, qui sont liés à nos modes de production et de consommation. Alors, c'est une question fondamentale, mais aujourd'hui, il est surtout question pour nous, en plateau, de mettre en avant des actions existantes autour de nous, à plus ou moins grande échelle, qui ont en lien avec cette question de l'alimentation. Et donc, on va échanger avec Patrick Di Battista, qui a organisé donc la Disco Soupe. Bonjour, Patrick.
Bonjour.
Et voilà. Alors, Patrick, déjà, est-ce que tu peux présenter la structure pour laquelle tu travailles et qui a organisé cette Disco Soupe déjà?
Oui, donc on l'a co-organisé donc, à la demande de Valeco et des partenaires de la fête de la récup. Donc, c'est la Chrysalide qui est le centre social et le service animation du CIAS du Blaisois. Donc, qui est une structure intercommunale localisée à Vineuil, voilà, mais qui a vocation à intervenir sur l'ensemble du territoire d'Aglopolis. Donc, au sein de laquelle on développe de diverses actions d'animation dans tous les domaines, et on est sensible beaucoup, de toute façon, dans la programmation, dans la réponse apportée aux demandes du public, voilà, aux choses qui viennent de la vie courante. Et cette dynamique de la récupération, du développement durable est tellement dans l'air du temps qu'on s'y inscrit tout naturellement. Donc la Disco Soup, c'est une action qui nous intéresse et qu'on a eu l'occasion de développer par deux fois, déjà sur d'autres semaines du développement durable auxquelles on a participé. Alors on est devenu un peu les spécialistes de la Disco Soup, je dirais, très avec beaucoup d'envie et on y croit beaucoup, mais un petit peu comme ça par hasard, parce que on a aussi dans nos activités beaucoup on a une cuisine pédagogique, donc on travaille beaucoup autour de la cuisine, de l'équilibre alimentaire. Mais c'est vrai que quand on voit les chiffres du gaspillage alimentaire, bon, la Disco Soup, c'est vraiment une des actions qui peut y répondre au quotidien. Puisque, en fait, l'idée, c'est avec des légumes qu'on estimerait, alors bien évidemment comestibles, pas du tout abîmés, mais pas très jolis, qu'on a oublié dans le fond de son frigo, dans le fond de sa cave, et puis on sait pas trop quoi en faire parce que ils sont pas bons à jeter, mais on sait pas quoi en faire, et finalement, on s'aperçoit que des gens les jettent, nous. Donc, on montrait que tout simplement, on peut faire une soupe, ça va vite, c'est très bon, on l'a fait déguster, on avait prévu plus de 100 litres, on en a refait une cinquantaine qui part bien, parce que voilà, c'est quelque chose qui ne prend pas beaucoup de temps, enfin toujours, hein, dès qu'on est en cuisine, ça prend du temps, mais c'est vraiment
une
simple.
Soupe, c'est facile à faire.
C'est facile à faire, c'est à la portée de tout le monde.
Et puis l'avantage, c'est que même si les légumes sont abîmés, comme on les cuit et qu'on les mixe,
voilà,
on ne voit pas la tête qu'ils ont dans l'assiette, quoi, en fait.
Tout à fait, tout à fait.
Alors ce qu'il faut quand même dire aussi, c'est que la soupe, vous l'avez faite, mais vous l'offrez aux gens.
Voilà, on l'offre, oui, tout à fait. Hein? Puisque nous, en fait, c'est parti aussi, c'est un circuit voilà, coopératif, collaboratif, puisque nous, c'est des légumes qu'on a récupérés de la part des maraîchers ou d'autres producteurs. Voilà, parce que de toute façon, ce serait devenu des invendus. Donc voilà, nous, c'est notre volonté, on l'offre, il n'y a pas d'échange.
D'accord. Tout, d'autant plus que c'est des légumes qui sont locaux.
Oui, complètement. C'est du circuit court, comme on dit. Voilà, légumes locaux, voilà, production sur place.
D'accord. Alors comment c'est organisé? C'est pas vous qui avez organisé la collecte, je crois?
Alors la collecte, non, a été faite par les ambassadeurs du tri d'Aglopolis, en lien avec Valeco. Voilà, nous on a réceptionné dans nos locaux, on a mobilisé plusieurs groupes de bénévoles, parce que ce que je n'ai pas dit en ma présentation, c'est qu'au niveau de la Chrysalide, On est une équipe de 12 personnes avec 8 animateurs, mais on a beaucoup, beaucoup de bénévoles qui sont très investis, alors chacun sur ses domaines. Et autour de la cuisine, on a beaucoup de gens qui aiment faire. Donc en même temps, pas forcément, ça leur permet aussi de partager avec eux, d'éduquer au développement durable. Donc voilà, on a fait plusieurs équipes, on a préparé en amont tout ça dans nos locaux, un petit peu. On a voulu en faire ici sur place pour montrer que justement une soupe on peut la faire en 2 heures en s'y mettant
avec un bon un peu de matériel et puis d'huile de coude
on peut faire une bonne cuisson, de bons assaisonnements, on a fait en grande partie un petit peu en amont et pas mal aujourd'hui aussi.
Alors rapidement, quels légumes vous avez mis dans cette soupe là qu'on peut manger en ce moment?
Alors en ce moment, donc il y avait à la fois il s'agit d'être en respect des saisons, etc. Donc on arrive là sur les légumes d'hiver, mais on a un bel été qui a duré. On avait des légumes genre tomates, courgettes, qui étaient justement là en fin de vie, parce que la saison se termine et parce que certains avaient été entreposés. Donc on a pris déjà. Alors après, l'idée justement quand on fait une soupe ou autre chose, c'est d'essayer là aussi de faire jouer la créativité et l'alliance de goûts qui reste bonne. Donc on a volontairement ce qu'on a baptisé la soupe du soleil, parce qu'on avait beaucoup de tomates, de poivrons, on a utilisé ces ingrédients pour faire un type de soupe. Et puis on arrive sur le début des légumes d'hiver, les cucurbitacées, les butternuts, potirons. Donc on a fait aussi une autre soupe potirons. Et puis la soupe classique qu'on peut faire toute l'année, poire aux pommes de terre, qui plaît toujours, voilà.
D'accord. Alors là, tu disais une centaine de litres de soupe qui ont déjà été distribués.
Oui, oui.
Il y en a encore en préparation.
Il y en a encore en préparation, voilà, parce qu'on voyait de la demande, alors
ouais.
On continue.
Puis le temps dehors s'y prête, c'est-à-dire qu'il fait beau mais froid, donc la soupe ça fait du bien, même au moment du goûter, c'est agréable, surtout bien chaude. Alors quand vous distribuez la soupe, là, comment est-ce que vous présentez cette action?
Alors justement, on a gardé aussi un côté... on reste dans cette volonté de partage et d'éducation. Donc on avait gardé quelques légumes qui pouvaient attendre aujourd'hui. Donc on a commencé il y a un petit atelier d'épluchage. Donc on montre justement que voilà, le légume n'est pas très joli, mais en enlevant 2-3 parties. Déjà coupé, il est sain, il n'y a pas de souci. Donc on fait ça sur place et puis après on utilise les locaux de la cuisine. Donc pour ceux qui veulent venir, on peut aussi les prendre en bénévole en cuisine. On organise sur deux sites à l'extérieur, juste à l'entrée du jeu de paume, à l'entrée de la fête.
Et du coup, le retour des gens sur la distribution de soupe?
Apparemment, je peux que féliciter tous les gens qui s'y sont mis. Le goût plaît bien en fonction des affinités de chacun. Alors, on a même tenté quelques soupes moins communes, parce qu'on avait quelques légumes, genre soupe aux choux, une soupe avec des céleris, qui sont des choses aussi qui, dans le goût commun, n'est pas le plus répandu. Donc on a globalement de bons retours. Là où on aimerait, on a de l'écoute, mais on aimerait vraiment aller jusqu'au bout de la démarche arriver à ce que les gens puissent éplucher, cuire avec nous, c'est peut-être plus compliqué. Mais parce que aussi, les personnes ne sont peut-être pas venues pour ça. Et puis voilà, dès qu'on s'y met, ça prend un peu de temps. Donc, vu l'immensité de la fête, il y a des choix à faire aussi.
Oui.
Donc,
Alors, ça, c'est le retour des gens sur le goût de la soupe.
Voilà.
Mais quels sont le retour des gens sur l'organisation de cette disco soupe, sur le principe même?
Le principe plaît. Après, c'est vrai qu'on se dit, je pense qu'on participe à une prise de conscience le gaspillage, on peut l'éviter, ne serait-ce que par ça. Maintenant, nous, de notre côté, on n'aura pas de retour. Est-ce que les personnes vont mettre en application? On le souhaite, bien évidemment. Mais apparemment, le retour des personnes dit oui, finalement, c'est simple. Je m'y mettrai sûrement. Donc, on peut partir du principe que le sûrement va se faire à domicile.
D'accord. Et donc ça veut dire que, moi c'est la question, c'est, alors tu l'as expliqué rapidement que vous aviez déjà organisé des disco soupes.
Oui.
Et que c'est comme ça qu'un petit peu Valeco vous a embarqué dans l'idée.
Voilà, tout à fait.
Vous, la première disco soupe, comment est-ce qu'elle est venue en fait? C'est une des actions au quotidien.
Alors c'est pas encore une des actions au quotidien. Pour nous ça a été, on est parti pareil. C'était il y a 3 ans, on a fait une il y a 2 ans aussi. C'était à la demande de, donc la mairie de Vineuil avait fait chaque année une semaine du développement durable. On avait participé à la préparation et puis pareil, un peu comme là, assez naturellement, on s'est dit, donc c'était à la salle des fêtes, on s'est dit, il y a la chrysalide à côté, il y a notre cuisine, il y a nos bénévoles et on s'est inscrit. Alors ce qu'on peut voir nous effectivement en retour dans nos actions quotidiennes, c'est que vraiment autour de l'alimentation, on a vraiment des actions régulières et toute l'année au niveau de la chrysalide, où on, en même temps que le travail sur le goût et l'équilibre alimentaire, on travaille sur justement de savoir utiliser bonnes choses, ne pas gaspiller, du circuit court, on s'inscrit. C'est pour ça que je disais, on n'est pas vraiment spécialiste du gaspillage alimentaire, mais on y participe, on y croit. Et voilà.
Alors, est-ce que du coup, en dehors de cette question-là de l'alimentation, est-ce que vous au CIS, vous avez des ateliers, une proposition d'activité autour de la récupération,
oui,
autour de la réduction des déchets aussi?
Réduction des déchets, peut-être pas encore. Récupération, enfin, on peut dire qu'on, voilà, on participe à la réduction des déchets en récupérant. Mais oui, oui, c'est pareil. On a là un de nos axes, depuis 2 saisons, où on est sur des ateliers de récupération créatifs, à l'image de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Donc ce sont des séances, alors on utilisait un anglicisme, mais c'est le mot adapté, des ateliers upcycling, pour recycler tout en créant partir de matériaux, des palettes qui peuvent être jetées, ça c'est le plus classique, mais aussi des pneus, des choses comme ça qui sont pas naturellement récupérés et qui peuvent rester parfois traînés ou être abandonnés dans la nature. Là, on peut montrer aussi qu'on peut faire des choses utiles pour soi, pour le plaisir, pour faire des cadeaux. On en a l'illustration aujourd'hui sur l'ensemble des ateliers, donc on fait ça à la chrysalide aussi.
À côté du stand, il y a un petit espace avec des pneus en que ça. C'est vous qui les avez
Alors ceux-là, non, c'est pas à nous. Mais c'est le genre de choses qu'on peut faire. Les tabourets comme ça en pneus, oui, on a fait.
D'accord, très bien.
Non, ici, ici c'est vraiment les autres. Et on s'aperçoit justement que sur, à proximité, c'est bien que la fête est réunie, on a vraiment plein de personnes créatives. Donc c'est vrai qu'on repart nous aussi avec plein d'idées qu'on pourra proposer aux personnes qui viendront nous visiter.
D'accord. Je te remercie pour cette présentation.
Merci.
Moi je vous propose qu'on continue dans cette thématique là, donc la réduction des déchets alimentaires, avec une initiative innovante, puisque nous allons maintenant écouter le témoignage de Guillaume Leclerc, qui est le fondateur et le gérant de la brasserie Guillaume à Courcheverny. Et qui lui produit une bière issue en partie de la récupération de pain rassis. Voilà, on écoute ça et on revient très très vite pour continuer à parler vraiment valorisation déchets alimentaires, en particulier avec le label Ecodéfi mis en place par Valeco.
Composter, valoriser, réparer, créer, ne pas gaspiller, zéro déchet.
La fête de la récup, c'est sur Studio Zef.
Oui, bonjour, donc Guillaume Leclerc, je suis le gérant, enfin le créateur et gérant de la brasserie Guillaume, donc qui est une fabrique de bière artisanale implantée à Courcheverny depuis début 2015. Donc c'est une fabrique de bière à partir d'orge et de blé maltais de la région Centre-Val de Loire. Et faites également donc les bières faites avec des houblons d'Alsace et de Flandre, donc des houblons français. Parce que pour l'instant, le houblon n'est pas cultivé en région Val-de-Loire. Donc ce sont des bières qui vont être diffusées ensuite sur tout, on va dire tout le grand Loir-et-Cher, de Vendôme à Romorantin et à peu près de Amboise à Orléans, quoi. Je produis, j'embouteille, j'étiquette, je conditionne, je livre et je gère le tout. Voilà.
Alors, nous allons parler ensemble, à l'occasion de la fête de la récup, de la création d'une bière brassée à partir de pain rassis collecté chez des professionnels.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez nous présenter ce produit tout d'abord ?
Alors, dans toute ma gamme de bières qui s'appelle la 1515, donc ma bière la 1515 et mon autre gamme, la gueule de bois, il y a un petit ovni, un petit projet à part, qui s'appelle le demi-baguette, donc pas la demi-baguette qu'on trouve en boulangerie, mais le demi-baguette qui est plus normal de trouver dans une brasserie. En fait, au départ, c'est une proposition à Paris, en fait, avec un boulanger qui était un de mes revendeurs sur Vineuil, donc de mes produits, de mes bières, Christelle Faucheux et Philippe Lamine, qui sont assez sensibles aux questions environnementales et qui m'avaient dit, bah tiens, j'ai plein de pains secs, j'ai vu qu'on en faisait, qu'on pouvait faire de la bière à base de pain. Voilà, est-ce que ça ne dirait pas d'essayer? Enfin voilà, qu'est-ce qu'on peut faire autour de ça? Et moi en fait, je connaissais, je savais que ça existait. Donc j'ai rien inventé du tout. Hein, c'est pour ça que je tiens à le dire. Et des brasseries à Bruxelles, en Angleterre, dans l'est de l'Europe, qui faisaient déjà ce genre de bière. Après quelques tests, en fait, ça s'est avéré concluant et c'est comme ça que l'aventure est partie, donc en me fournissant de pain auprès de chez eux. Après, ça a un peu évolué dans la mesure où ils ont revendu leur boulangerie pour partir sur d'autres projets. Ça n'a pas été compliqué de trouver d'autres sources d'approvisionnement de pain sec parce que, ayant communiqué depuis sur le projet, d'autres vendeurs professionnels donc qui avaient commencé à goûter ce produit-là et à le diffuser se sont proposés, même c'était proposé avant, moi aussi je peux te fournir du pain sec. Donc j'ai basculé de fournisseur pour continuer à produire cette bière-là, quoi. Alors le principe, c'est en fait la théorie, c'est que le brasseur, pour faire de la bière, transforme l'amidon des céréales maltées en sucre fermenté cible que les levures vont ensuite transformer en alcool et en gaz. Donc la source d'amidon, en fait, ça peut être aussi bien des céréales que toute autre source d'amidon. Et le pain en est riche, c'était une façon de trouver de l'amidon pour transformer en sucre fermenté cible et surtout de donner une seconde vie à quelque chose qui pouvait finir directement comme déchet. Donc en fait, c'était de déjà valoriser un sous-produit, quoi, plutôt que de transformer ça à partir d'une céréale qui est exprès cultivée pour faire in fine de la bière.
Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette bière-là? Quelles sont ses particularités par rapport à une bière, on va dire, plus classique?
Ce que je vais récupérer, c'est du pain, des baguettes de pain blanc, on va dire, assez industriel. C'est pas du pain au levain ou du pain complet qui, lui, rassit très lentement. Et donc, il y a souvent très peu de pertes sur ce type de pain-là. Donc, ça va être des baguettes de pain blanc qui vont être rassis ou qui vont plus convenir dans les établissements au bout de 24 heures. Donc c'est assez neutre en goût et en couleur. Donc moi je suis parti sur faire une ambrée assez légère. J'avais déjà une bière ambrée dans ma gamme, mais un peu plus ronde, un peu plus corsée. Donc là, pour être complémentaire, une ambrée assez légère. Donc le pain rentre à 40% de la source d'amidon dans la recette. Donc 60% d'orge et 40% de pain, au lieu d'être une bière à 100% orge. Ce qui, par exemple, sur un brassin de 500 litres, va permettre d'économiser 40 kg d'orge pour une bière à peu près à 5 degrés d'alcool. Donc le pain, il est mis à tremper et coupé en tronçons, et mis à tremper la veille dans l'eau chaude du brassage. Et donc le lendemain matin, il est déjà bien complètement ramolli. Et on peut ensuite enchaîner le brassage avec les étapes normales d'un brassin, c'est-à-dire on y ajoute par-dessus donc les orges, un peu d'orge un peu plus caramélisé pour donner légèrement de la couleur au brassin et à la bière finale. Et puis ensuite, donc chauffage d'une espèce de liquide qui ressemble un peu à du pain perdu, à du porridge, qui va être chauffé à 60-65 degrés pendant une heure et demie, puis va être séparé de toute sa mie, de sa croûte et des enveloppes d'orge. Et ensuite, on va bouillir le jus sucré qui va rester de cette filtration. On va le faire bouillir, c'est là qu'on va incorporer les houblons pour donner un peu d'amertume à la bière caractéristique. Et au final, après une heure et demie de, d'ébullition, donc ce jus-là va être refroidi à 25 degrés et mis en fermenteur avec la levure pour que la fermentation alcoolique démarre. Et au bout d'une semaine, on va avoir une bière qui va être qui va avoir ses 5 degrés d'alcool, mais qui va être sans bulle. Donc on va la laisser s'affiner et se décanter au froid, ensuite à 2 degrés. Et ensuite, elle va être remise au bout de 15 jours de garde, va être remise en bouteille avec un peu de sucre sur le principe de la méthode traditionnelle du crément, pour refermenter en bouteille et acquérir à ce moment-là sa mousse et sa bulle qu'on va pouvoir déguster 15 jours après dans un verre. Donc voilà, il faut à peu près un mois pour faire une bière à partir de pain et d'orge.
Est-ce que cette méthode-là diffère beaucoup d'un brassage, j'aurais dire, plus traditionnel ?
Bah un peu en fait. La seule étape supplémentaire et différente, ça va être le trempage du pain pour le ramollir et la veille, et que ensuite avec le brass et qu'on puisse ensuite rattraper en termes de temps le brassage avec l'orge. Parce que sinon, sur une heure et demie de trempage dans l'eau chaude avec l'orge, si le pain était dur dès le départ, il pourrait pas libérer tout son amidon. Donc il faut un peu le faire tremper. Puis j'ai remarqué que plus on le faisait tremper longtemps, et plus on avait quand même un léger goût de croûte qui passait dans la bière. Autrement, sur un temps trop court de brassage, le petit goût de pain de croûte un peu brûlé parfois ne passe pas dans la bière. Donc cette étape de pré-macération est importante, ouais. Ça ne demande pas d'équipement supplémentaire ou différent. C'est juste un peu plus de planning et de préparation et d'anticipation, quoi.
Je voulais en savoir un petit peu, moi, sur la méthode que vous utilisez pour collecter le pain. Est-ce que c'est les entreprises avec qui vous travaillez qui vous le déposent ou est-ce que vous chargez de cette collecte ?
Non, c'est comme pour l'instant, les fournisseurs de pain dur sont également de mes clients de mes bières. C'est au fur et à mesure de mes tournées sur Blois que je récupère... quand il y a un sac, quand il y a deux sacs qui commencent un peu à les encombrer, que je les libère du pain dur, que je stocke ensuite dans la brasserie. Et une fois que la quarantaine de kilos de pain dur est rassemblée, à ce moment-là, je peux déclencher un brassage. Ça reste encore des volumes assez limités. Je vais peut-être la brasser 3-4 fois par an. Donc pour l'instant, voilà, ça représente 150 kilos de pain collectés sur l'année. Si la diffusion de ce brassin-là augmente un petit peu, là oui, il faudra trouver d'autres fournisseurs de pain sec. Mais bon, je pense qu'il y a assez de boulangeries sur Blois, ou peut-être voir également avec des restaurations collectives pour avoir quelques points supplémentaires avec des volumes conséquents, quoi.
Est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs le ratio entre le volume de pain que vous utilisez dans un brassin et le volume de bière que vous obtenez ?
Eh bien, pour faire à peu près 500 litres de bière à 5 degrés d'alcool, il va falloir donc 60-65 kilos d'orge et 35-40 kilos de 40 kilos de pain. L'important, alors d'une part, c'est au niveau de la législation, il faut au moins 50% de céréales pour que ça s'appelle une bière. Donc là-dessus, je peux pas mettre plus de pain. D'après les essais, je peux pas monter à plus d'un tiers de pain. Parce qu'au-delà, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le sel qui rentre dans la composition du pain commence à marquer le goût de la bière. Et on commence à avoir une bière salée si on met trop de pain dedans. Ça limite aussi l'utilisation du pain, quoi.
Alors, deux petites questions pour finir. Déjà, est-ce que vous avez des retours des gens qui ont consommé cette bière ? Qu'est-ce qu'ils en pensent ?
Ils sont encore là pour en parler, déjà.
Oui.
Et ils la trouvent... On va dire, il la trouve marrante, alors tant sur l'étiquette qui diffère un peu d'une étiquette de bière classique, parce que on est parti justement sur le principe avec le graphiste de raconter un peu le principe de la bière sur l'étiquette, vu que ça demande un peu d'explication. Et il la trouve marrante aussi sur le goût, parce que c'est vrai qu'elle diffère un peu d'un goût de bière classique. Voilà, ça fait une bière assez légère encore, une bière assez sèche, quoi. Le pain donne pas forcément beaucoup de sucrosité comme les céréales peuvent en donner et donne pas beaucoup de moelleux à la bière en bouche. Mais c'est, on va dire, voilà, c'est une bière sympa de soif, d'apéro, assez désaltérante. Puis quelque part aussi, cette légère finale salée iodée, due au sel du pain, ça en fait plus une bière d'apéritif, quoi. Une bière assez légère. Je l'ai faite assez légère aussi en alcool pour être sur une bière de consommation courante, quoi. Souvent on appelle la bière le pain liquide parce que bah, c'est fait avec la même chose que c'est une fermentation de céréales comme du pain au final, sauf que la matière est pas solide mais liquide. Bah, avec cette bière au pain, on rejoint la boucle est un peu bouclée, on rejoint la notion de pain, quoi. Toujours dans cette optique bah, d'économie circulaire, donc une fois cette bière réalisée, cette bière au pain, donc les résidus céréales, donc ce qu'on appelle les drèches, donc les céréales qui ont été lessivées de leur sucre par le brassage et le son, plus tout ce qui est un peu croûte de pain, donc c'est récupéré et ça part auprès des voisins de la brasserie, dans leur jardin, en compostage, en mulchage ou en alimentation de leur basse-cour. Ça permet vraiment de réduire au maximum et la consommation de matières premières et les déchets.
Dernière petite information, où est-ce qu'on peut retrouver le demi-baguette ?
Vous l'avez dans les deux hôtels Ibis, enfin l'Ibis Centre Château à Blois et puis l'Ibis Gare à Blois toujours. Vous en avez également au bar-restaurant au Petit Paris, avenue Monory à Blois. Et puis dans les boutiques de la biscuiterie de Chambord et ainsi qu'à la boutique de la Bourriche aux Appétits au Lac de Loire à Vinaille.
Très bien, je vous remercie pour toutes ces informations.
C'est moi. Merci beaucoup.
Et je vous souhaite bonne chance pour la suite.
Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.